16 mai 2025 à partir de 21h30.
Nous sommes le vendredi 25 avril 2025. À mes auditeurs, bonjour et bienvenue à l'émission À la loupe du doigt sur Radio Centre-Ville 102.3 FM et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous n'allons pas parler du droit québécois, mais de préférence d'Haïti, avec Michel Soukart. Michel Soukart, écrivain d'histoire, animateur de radio. Michel Soukart, qui est très présent dans les médias ces derniers jours, pour parler d'Haïti et aussi pour expliquer la portée de ses prévisions sociales, économiques, politiques au sujet d'Haïti. Alors, la causerie avec Michel Soukart se fera dans un langage très simple pour permettre à nos jeunes qui ont plus de 10 ans, qui sont nés au Canada, aux États-Unis, en France, au Chili et ailleurs, de comprendre en réalité ce qui arrive au pays d'origine de leurs parents. Michel Soukart, bonjour. Bienvenue à l'émission À la loupe du doigt. C'est un plaisir de vous accueillir. Et la première question que je vous pose est celle qu'on me pose à chaque fois qu'on veut me parler d'Haïti. Michel Soukart, qu'est-ce qui arrive à Haïti?
Bon, ce qui arrive, c'est la conséquence de mauvaise gouvernance depuis plus d'une soixantaine d'années. Parce que le phénomène de la migration, c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Cela a commencé fortement depuis le début des années 60, avec la dictature de Duvalier, où des milliers, des milliers, des milliers d'Haïtiens fuyant cette dictature sont partis vers le Québec, les États-Unis, l'Afrique, etc. Bon, maintenant, il y a eu une espèce d'apaisement apparent à la fin des années 80, pour recommencer avec la période du coup d'État, et puis ensuite les dérives lavalassiennes, PHTK, etc. Mm-hmm. Et maintenant, c'est une véritable saignée, surtout avec le programme Biden. Donc, ce qui veut dire que jusqu'à présent, comme dirait l'historien uruguayen, on est en train de vider Haïti les veines ouvertes.
D'accord.
C'est ce qui arrive.
Exactement. Moi, dans ma tête, professeur Soukart, je le dis souvent, la migration a toujours été une option rationnelle dans l'histoire de l'humanité. Quand ça ne va pas,
oui, quand ça ne va pas, les gens vont ailleurs. C'est évident, ils vont chercher la vie, parce que ce qui intéresse l'être humain d'abord, c'est de pouvoir faire sa vie.
Exactement.
Travailler pour se vêtir, manger, etc. Quand là où vous êtes ne peut pas satisfaire ses besoins, vous vous déplacez. Et comme disait l'autre, la patrie, c'est là où l'on se sent bien, d'abord.
Oui, ça on peut le
même
dire.
Même si vous traînez après vous une souffrance qui s'appelle la nostalgie, mais quand vous n'avez pas la paix dans le ventre, eh bien, vous n'aurez pas la paix dans la tête.
Oui.
Donc, vous allez essayer de la chercher ailleurs, même quand ça comporte son lot de sacrifices, de dureté, mais c'est comme ça.
Mm-hmm. Et est-ce que vous avez déjà été contraint de partir pendant de très longues périodes, professeur?
Non, j'ai été contraint de partir pendant une courte période. Bon, c'était pour des raisons pour des raisons politiques. Ça, c'était sous Duvalier. Nous étions fin 84. Je luttais contre la dictature, ouvertement et clandestinement à la fois. Bon, c'est le droit d'un être humain de ne pas être d'accord avec un régime politique. Oui. Mais on oublie souvent que c'est aussi le droit de ce régime politique de se défendre. Donc à ce moment-là, ils sont venus m'arrêter. Bon, heureusement, ils ne m'ont pas trouvé. Je suis rentré dans la clandestinité. Je suis parti d'ailleurs, bon, passant par l'ambassade du Panama, d'abord pour le Panama. À ce moment-là, j'ai fait le Panama, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, le Canada. C'est pourquoi je dis toujours, Montréal, à l'époque j'avais 29-30 ans, c'est la ville où je suis définitivement devenu un homme. Parce que j'ai dû affronter beaucoup, beaucoup de choses. Et je m'en suis sorti. Et quand je suis revenu en Haïti, je me rappelle cette remarque de mon ami défunt, journaliste Sonny Bastien, qui était venu me voir 2 jours après mon retour. Il m'a regardé, il m'a dit, Le Michel qui était parti n'est pas le Michel qui est revenu.
C'était un autre homme.
Oui. Je lui ai dit, pourquoi tu dis ça? Il m'a dit, ça se voit sur ton visage.
Et qu'est-ce que ça vous a apporté de façon positive?
Bon, tu sais, Marindy, l'exil, c'est comme la prison. C'est vrai. L'homme qui est entré n'est pas l'homme qui va sortir. Il va découvrir un autre monde. Il va apprendre à faire face à lui-même, à passer un examen. Qui est-il? De quoi est-il capable? Est-ce qu'il peut surmonter des difficultés, des obstacles? Et puis, bon, si tu as passé cet examen, eh bien, tu as mûri. Tu n'as pas pourri. Tu as mûri. Et maintenant, c'est un autre homme. C'est un autre homme. C'est pas du tout la même chose.
Alors, je veux pas reprendre le titre du livre de Daniel Lafayeur qui parle de l'énigme du retour. Là, on se pose aussi la question, est-ce qu'il est possible pour quelqu'un maintenant de retourner vivre en Haïti? Est-ce que la vie est possible?
Bon,
en
ça
Haïti,
dépend de l'endroit où il va. Il y a des endroits où il n'y a pas d'insécurité généralisée, comme dans l'Artibonite, comme dans l'Ouest. Par exemple, dans le Nord, dans le Sud, dans le Sud-Est, dans la Grandance,
il y a
dans
encore la vie.
Oui, les gens vivent normalement. Il y a des endroits où les écoles n'ont jamais arrêté de fonctionner. Si tu vas, par exemple, dans un endroit comme Folliberté, c'est un endroit très calme. Même dans les périodes de manifestations, de pays locs, comme on disait, j'ai connu même des familles qui étaient originaires de cette zone, qui envoyaient leurs enfants retrouver leurs parents, les enfants allaient à l'école là.
Donc ce qu'on voit à la télé, sur les réseaux sociaux...
C'est davantage focalisé sur Port-au-Prince et certaines zones. Mais... Et comme c'est là aussi qu'il y a la plus grande concentration démographique, donc ça fait beaucoup plus de bruit, et comme c'est dans cette zone aussi qu'il y a la plus grande activité économique et politique, c'est le nerf politique du pays, donc c'est normal que ça fasse beaucoup plus de bruit. Et quand les gens te parlent d'Haïti, en fait, ils te parlent du bassin de Port-au-Prince, ils te parlent de l'Artibonite, c'est Margonaïve.
Les images que nous voyons sur les réseaux sociaux.
Oui, bien sûr, mais... Il y a un tas d'autres zones du pays qui existent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Mais les gens vivent normalement. Si tu vas au Cap Haïtien, tu peux circuler dans les rues, le bord de mer du Cap, jusqu'à 1h du matin, au Caïdem. Jérémy, n'en parlons pas.
Donc, il y a encore de l'espoir. Ce n'est pas un cancer qui est en train de...
Bon, il faut faire attention, parce que le cancer peut faire métastase. Maintenant, il y a des endroits aussi où les gens résistent, où les gens se défendent. Ou si quelqu'un vient faire du grabuge, mais il trouve à la mort, facilement. Mais tout le problème, c'est justement ces zones-là. L'Artibonite et le bassin de Port-au-Prince, l'Ouest.
Et à votre avis comme historien, pourquoi ce sont ces zones-là qui sont ciblées? Parce que,
comme je te disais, n'oublie pas, l'Artibonite a été pendant longtemps le grenier d'Haïti. Et deuxièmement, dans l'Ouest, tu as le bassin de Port-au-Prince, c'est le nerf politique, et c'est là que tu trouves aussi beaucoup d'activités commerciales, un peu industrielles. Et le bassin de Port-au-Prince, si Haïti compte maintenant 12 millions d'habitants, cette zone-là seulement doit compter pour 4 millions. Hein. Mm-hmm. Et là, je parle de Carrefour, Port-au-Prince lui-même, Pétionville, Delma, et un peu quoi des bouquets... Tabac, Cité Soleil, ça te fait à peu près 4 millions d'habitants. Hein. Donc, il y a beaucoup de concentration d'activités. Maintenant, les gens qui font ce genre de choses, qui planifient cette insécurité, ils savent ce qu'ils font. Ils ont bien étudié le pays. Donc, ce qui fait que quand tu as l'Artibonite et l'Ouest, cette partie, grande partie de l'Ouest, ça te donne à peu près la moitié de la population d'Haïti. Donc, c'est ce qui explique donc ce mouvement d'émigration. Donc, tu as beaucoup de gens qui s'en vont. Et comme je te disais, surtout avec cette histoire du programme Biden, qui a été conçu par le gouvernement américain pour détruire certains pays. Et là, tu n'as qu'à voir. Venezuela, ils ont des problèmes avec le Venezuela. Cuba, n'en parlons pas. Nicaragua, de même. Et puis Haïti. Ils ne le font pas avec la République dominicaine, ils ne le font pas avec le Mexique, ils ne le font pas avec le Costa Rica. Ce sont des histoires bien ciblées. Donc, et le pays est en train de subir ça. Moi, je voyage assez souvent. Je peux te dire que depuis le début de ce programme, à chaque fois que je voyage dans un avion qui va soit à Miami, à Fort Lauderdale ou bien à New York, si tu as 100 personnes dans l'avion, il y a au moins 70 qui sont bénéficiaires du programme Biden. Et de tous âges.
Oui.
De tous âges. Et de différentes classes sociales, classes moyennes, classes populaires.
Donc, il y a des gens qui pensent que ce programme, c'est vraiment un bienfait envers les Haïtiens.
Bon,
c'est
tu sais,
porte, amicale.
Je ne les blâme pas. Parce que tu vois, des endroits où ils viennent, ce sont des endroits où la vie est devenue intenable. Donc, quand tu es au fond d'un trou, tu ne regardes pas la couleur de la main qui t'aide à en sortir.
Oui, l'essentiel, c'est de s'en sortir.
Et puis, on verra après. Ils n'ont pas... Bon, il y en a sans doute qui se font encore des illusions sur les États-Unis, de croire que c'est... Ils vont amasser de l'argent, des dollars par terre. Mais ils se rendent compte très vite que c'est pas ça. Il y en a même qui veulent revenir. Il y en a même qui veulent revenir.
Oui,
qui veulent revenir
exactement.
Chez eux.
Il y a des témoignages
mais
comme ça.
Au départ, le premier mouvement, c'est d'aller souffler ailleurs. On verra après. Bon, quand ils arrivent, il n'y a pas de structure d'accueil. Il y en a qui n'arrivent pas à faire leur chemin. Il y a des gens qui travaillent assez bien en Haïti et qui se retrouvent à travailler pour Amazon. Donc, c'est pour beaucoup, c'est peut-être une opportunité d'ascension économique et sociale, mais très vite déçue pour la plupart. Et pour d'autres, c'est une déchéance.
Est-ce que vous croyez, professeur Souka, que les États-Unis auraient pu faire mieux, trouver quelque chose de mieux comme solution pour Haïti au lieu de ce programme Biden?
Bon, les États-Unis ont une part de culpabilité dans ce qui se passe en Haïti. Maintenant, les gens qui dirigent les États-Unis, ils pensent diriger selon les intérêts des États-Unis, de la meilleure manière. Ils ne se soucient pas de répondre à ce genre de questions. Pour eux, ce qui compte, c'est d'abord défendre leurs propres intérêts de n'importe quelle manière. Qu'ils détruisent ton pays, qu'ils anéantissent ton peuple, qu'ils foutent le bordel partout, c'est pas un problème pour eux. Ils l'ont fait en Libye, ils l'ont fait en Irak, ils l'ont fait en Afghanistan, ils l'ont fait en Syrie. Et maintenant, ils aident Netanyahou à anéantir le peuple palestinien. Ils le font en Ukraine. C'est la logique, ce sont les conséquences du capitalisme du désastre. C'est comme ça qu'ils font leur beurre sur le sang, dans la chair des autres.
Ouais.
Donc, pour eux, Haïti aussi passe dans le lot. De même qu'ils le font avec le Venezuela, avec Cuba depuis plus de 60 ans, avec Nicaragua. Donc, il ne faut s'attendre à rien de bon de la part de ces gens. Ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est en fait la communauté occidentale. Et nous savons très bien comment les puissances occidentales ont bâti leur fortune sur le dos d'autres peuples. Le colonialisme, l'esclavagisme, le racisme, l'impérialisme, tous ces ismes dévastateurs, aujourd'hui nous continuons encore à payer le prix. Donc, si nous voulons nous en sortir, nous devons nous-mêmes bâtir l'espoir. Et nous devons nous-mêmes penser en fonction des intérêts de notre pays, pas nous attendre à ce que les États-Unis, le Canada, la France ou autres viennent faire quoi que ce soit pour Haïti.
Mais ce nom, c'est qui ce nom, professeur?
Les Haïtiens. Les Haïtiens.
Les Haïtiens, c'est global.
Oui, c'est global.
C'est macro.
Oui, c'est macro.
Mais comment arriver à cette unité?
Il faut faire un long et profond travail d'éducation, de conscientisation et d'organisation. Il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir. Tous les peuples ont fait le même chemin. Ça prend le temps qu'il faut, ça prend le courage qu'il faut, ça prend l'abnégation qu'il faut, ça prend les risques qu'il faut, mais il faut payer le prix. Il n'y a pas de cadeau. Et je voudrais surtout dire à mes concitoyens et concitoyennes que Dieu ne fait pas de politique. Donc ce n'est pas la peine de continuer à l'agacer, à lui demander de faire quelque chose pour Haïti. Il a dit lui-même, rendez à César ce qui est à César
et à Dieu ce qui est à Dieu.
La politique est une création humaine, les États, les peuples, etc. Donc, à vous de vous démerder. Dieu s'occupe des âmes, il ne s'occupe pas des corps. Or, la politique, c'est la science qui te dit, comme disait Thomas Jefferson, c'est la recherche du bonheur. Comment tu dois t'organiser dans un pays pour pouvoir vivre? pouvoir vivre. Donc les hommes ont créé les États, les hommes ont créé les peuples, donc démerdez-vous. Démerdez-vous.
Et la question revient encore, professeur Soka, avec ce qui se passe en Haïti, les gens qui fuient. C'est vrai, c'est pas tout le monde qui laisse Haïti. Mais comment est-ce qu'on va faire dans votre... Est-ce que vous avez une formule à proposer? Mais moi, personnellement, je suis en train de réfléchir comment arriver à ce nom collectif capable d'inverser la chose.
Bon, est-ce que c'est possible? Tu sais, oui, c'est possible. Parce que je connais beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui ont des parents ou la famille qui leur ont proposé de les faire venir comme bénéficiaires du programme Biden. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Parce qu'ils vous disent, si nous tous nous partons, Haïti ne sera jamais rien. Et ce sera encore pire.
C'est donc, un discours qui dure.
Ouais, mais...
Si on prend des années 80 à aujourd'hui, professeur Soka, c'est le même discours. C'est...
Il y a des gens qui s'en vont, il y en a qui restent. Mais pour rester, il faut pouvoir s'organiser et lutter. Et vous avez en face de vous une machine infernale qui a été montée par ces grandes puissances et leurs alliés locaux.
D'accord. Parlant des grandes puissances, est-ce qu'un pays peut se relever sans amis? Haïti, un pays...
Il n'y a pas d'amis. Ça n'existe pas. Il n'y a que des intérêts. Et ces mêmes grandes puissances qui défendent leurs intérêts, ils ne vous considèrent pas comme amis ni comme ennemis. Ils agissent en fonction de leurs intérêts. Aujourd'hui, c'est bon pour eux. Ils agissent d'une certaine manière que vous trouvez bien pour vous. Mais vous ignorez que c'est parce que c'est d'abord bien pour eux.
D'accord. Remplaçons alors le mot amitié par l'alignement. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays avec qui on pourrait s'aligner pour
inverser la situation? Bien entendu, vous pourriez le faire. La République dominicaine, qui est un pays allié des États-Unis, a des relations avec la Russie, avec la Chine, avec un tas d'autres pays. Les Chinois ont beaucoup investi en République dominicaine. Et ils sont en train d'aider les Dominicains aussi à transformer leur pays. Mais en Haïti, le problème, c'est que ce qu'on appelle la classe politique, les élites économiques, la classe d'affaires, ce sont des gens tellement inféodés mentalement que c'est très difficile pour eux de construire une autre alternative parce qu'ils devraient commencer d'abord par se décoloniser mentalement. Et presque tous ont en poche un passeport, soit américain, soit canadien, certains même français. Ce qui fait qu'ils ne défendent pas les intérêts de leur pays d'origine, ils défendent leurs propres intérêts qui sont liés aux intérêts de leur pays d'adoption. L'idéal pour eux, c'est d'accéder en Haïti à une position qui leur permet de piller. Et à partir des fruits de leur pillage, en rendant service bien sûr aux Américains, aux Canadiens, aux Français et tout, d'avoir une belle résidence au Canada, aux États-Unis ou ailleurs. Quand vous avez des gens qui font de la politique, entre guillemets, avec ce genre de mentalité, vous ne pouvez pas avoir un pays. Vous avez un comptoir, mais pas un pays.
D'accord.
Et ces gens-là considèrent Haïti comme comptoir. Exactement. Pas comme un pays.
Je comprends. Alors, vous parlez de ces gens-là parce que ce sont des gens qui ont les moyens, des gens qui ont voyagé, qui ont vu le monde, qui ont de l'influence aussi, professeur Soka.
Oui.
Là, si nous revenons à la deuxième partie, l'autre catégorie de personnes qui n'ont pas une éducation, une formation adéquate, qui sont dans un monde qui bouge, mais eux qui sont sur place, est-ce que c'est avec ces gens-là qu'on va inverser la situation?
Ces gens dont tu parles...
C'est là j'essaie de trouver, j'essaie de voir où est-ce qu'on va trouver la matière première.
Ces gens dont je te parle, qui restent, qui acceptent de rester pour se battre, ils ont de l'éducation. Ils ont de l'éducation. Ils lisent, ils font des recherches sur Internet, etc. Ils ont de l'éducation. Maintenant, l'essentiel, c'est de créer une synergie. C'est de créer une force pour pouvoir offrir au pays une alternative. Ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de combats, mais c'est possible. C'est possible.
C'est possible.
Oui.
Parlons de la situation de la République dominicaine. Comment est-ce que vous comprenez ce racisme féroce?
Ah, ça m'a gagné, c'est une longue histoire.
Par rapport à Haïti.
C'est une longue histoire.
Franchement, je vous pose la question, professeur, parce que je me pose la question aussi à moi-même. Et, ou à n'importe quel haïtien devenu citoyen canadien qui a de l'argent en poche, qui a envie d'aller ailleurs, prendre du bon temps, est-ce qu'on peut se permettre d'aller en République dominicaine dans un pays où nos collègues, nos compatriotes sont maltraités
Bon, je vais te dire, tu vois, pour comprendre ce comportement des Dominicains, Il faut d'abord comprendre que ce sont deux peuples qui ne sont pas du tout issus de la même matrice. À Saint-Domingue, il y avait un esclavage, il y avait un colonialisme esclavagiste raciste axé sur la corruption et sur la violence la plus cruelle. C'est contre ce système qu'Haïti est né, avec ses conséquences. Ça veut dire une méfiance vis-à-vis de l'Occident, une haine, comme disait Dessalines, aucun blanc ne mettra plus jamais le pied sur cette terre à titre de maître ou de propriétaire. Nous avons trop souffert de ces gens. Ça, Haïti, elle est le produit. La République dominicaine, ce n'était pas du tout comme ça. Chez eux, c'était un colonialisme espagnol, débonnaire, très mou. Il y avait l'esclavage, c'est vrai, mais un esclavage apparenté à une forme de domesticité, parce que c'était une économie qui n'était pas axée, comme à ces domaines, sur l'exploitation du sucre, du café, du coton, du cacao, non. C'est une économie ratière, ça veut dire où tu avais des colons qui étaient propriétaires de grandes étendues, où faisaient des élevages de bœufs, de chevaux. Celui qui était esclave, son travail consistait à amener le bœuf boire de l'eau, ou à manger dans le pâturage, et puis il s'asseyait à l'ombre d'un arbre, et puis il dormait pendant la journée. Donc, il n'a pas vécu la cruauté du système. Donc, ce qui fait que quand, par la suite, les Espagnols vont se retirer, les Français vont se retirer, ce qui va constituer le peuple dominicain n'aura aucune animosité, encore moins de haine, contre ses anciens colons. Et c'est pourquoi, maintenant, ils vont rester avec toutes les structures laissées par la colonisation espagnole, et particulièrement une institution forte, qui est l'Église espagnole, catholique, romaine, raciste, colonialiste, esclavagiste. Et c'est pourquoi, quand, avec Boyer, l'unité de l'île aura lieu, immédiatement, à l'université de Santo Domingo, contrôlée par cette église, des attaques véhémentes sont déclenchées contre cette politique unitaire. Ce sont ces prêtres catholiques, racistes, royalistes, réactionnaires, qui vont enseigner aux Dominicains « Nous ne pouvons pas nous allier à ces gens haïtiens, issus de la Révolution française, de la Révolution haïtienne, faites par des francs-maçons, des coupeurs de tête du roi, des anticléricaux, des gens qui ont dépossédé l'Église, des Africains en plus, des nègres, sorciers, cannibales. Nous n'avons rien à voir avec ces gens. » Et bien, Mackenzie, cette idéologie-là va imprégner la plupart des élites dominicaines et bien sûr le peuple dominicain. Il va traverser toute l'histoire dominicaine. Et tu vas voir
le nazisme caribéen.
Et tu vas voir que même quand le président Geoffroy haïtien va aider les Dominicains à reconquérir leur indépendance en chassant les Espagnols, ils ne vont pas célébrer cette indépendance. Mais c'est l'indépendance qu'ils ont prise vis-à-vis d'Haïti en chassant les Haïtiens avec l'aide de la France en 1844. Parce que cette unité avec Sous-Bois, il va durer 20 ans. Quand Boyer va tomber, les Dominicains vont en profiter, les Français vont les aider à chasser les Haïtiens. Maintenant, les Dominicains vont avoir un pays, un État, mais tellement faible que malgré Geoffroy, qui leur a dit, bon écoutez, je vais vous aider, nous n'allons plus vous envahir, très bien, je vais vous respecter votre indépendance. Geoffroy, dans un premier temps, voulait faire comme Boyer, comme Pierrot, comme Soulouk, essayer de reconquérir, mais il s'est rendu compte que... Les choses ont changé. Dans la politique internationale, il y a eu l'application du principe des nationalités, le respect des nationalités. C'est ce que voulaient l'Angleterre, la France, l'Espagne. Mais Geoffroy est venu avec un autre principe. Il a renoncé à la doctrine dessalinienne qui disait que Haïti, pour garantir son indépendance, devait avoir la mer pour frontière, donc contrôler toute l'île, de manière à ce qu'une puissance étrangère ne s'établisse pas dans l'Est et vienne menacer notre indépendance. Quand Geoffroy a dit que c'était plus possible, il a dit, bon, on va demander aux Dominicains deux choses. Un, est-ce que vous acceptez qu'on vous aide pour construire votre pays, à condition, deuxièmement, de ne pas installer de puissance étrangère chez vous. Les Dominicains ont dit oui. Peu de temps après, ils ont trahi leur parole. Le président dominicain Santana a donné le pays à l'Espagne. Heureusement qu'il y a eu des patriotes dominicains à prendre des armes contre cela. Geoffroy les a aidés. Il leur a donné des armes, des
sinon
munitions.
Le même scénario serait reproduit.
Oui, il leur a donné des armes, des munitions, etc. pour les aider à chasser l'Espagne et Santana. Ils ont réussi. Et depuis lors, il y a eu deux tendances dans les élites dominicaines. Il y a une tendance qui était venue depuis Duarte. Duarte, c'est l'un des fondateurs en 1944, lors de la révolte contre Haïti. Et Duarte va être combattu par l'autre tendance, la tendance raciste, la tendance qui était imprégnée de l'idéologie de l'Église anti-haïtienne. Parce que Duarte disait, écoutez, bon, nous avons une indépendance d'Haïti, mais on peut vivre en coexistence pacifique, sans développer de haine, etc. Mais l'autre partie majoritaire, dominée par ce Santana dont nous parlons, voyait toujours en Haïti un ennemi et que la meilleure manière de définir ce qu'on va appeler sous Trujillo la dominicanité devait être un anti-haïtien, un anti-haïtianisme. Ça a été un conflit qui va traverser toute l'histoire dominicaine. Mais ce sont la plupart du temps les anti-haïtiens qui vont prédominer. Donc c'est pourquoi Santana n'a pas respecté sa parole. Même quand il a dit oui à Geoffroy, il s'est livré à l'Espagne. Maintenant, un type comme Gregorio Luperón, qui était à la tête de la révolte contre Santana et les Espagnols, sera reconnaissant par rapport à Haïti. Mais ce n'est toujours pas cette tendance de Duarte, de Luperón par la suite qui va prédominer. La tendance qui va prédominer, c'est la tendance anti-haïtienne. Et elle va enfler au XXe siècle avec Trujillo.
Qu'on se le dise, le travail que fait l'association Solidarité Aquinoise est un succès. Tout le monde en parle. L'on arquait même ses papas, les tout petits mouns contents. Alors, on casse rendez-vous avec mouns nous connaît, mouns nous pas connaît pour nous poter solidarité, pour nous bien manger, nous commence à passer. Bon petit manger, sous le jour, mon chocolat à la caille. N'oubliez pas, dimanche 27 avril, salle Plaza Vogue, 4371 boulevard des Grandes Prairies à Saint-Léonard. Admission $70 pour les adultes et enfants de 3 à 10 ans, $35. Pour réservation, contactez Gina Jean au 438-994-8089. La mission n'a pas changé, c'est d'envoyer plus d'enfants à l'école. Merci pour votre collaboration. Les enfants de Gros Sky ont besoin de vous. Dimanche 27 avril, nous cassez rendez-vous, oui, n'est-ce pas?
Radio Centre-Ville, c'est une radio qui est située dans mon comté, dans le Maryland, et c'est pas n'importe quelle radio. C'est vraiment un endroit qui fait en sorte que les gens qui viennent de peu importe partout à travers le monde, quand ils viennent au Québec, ils sentent que le Québec, c'est chez eux. Radio Centre-Ville a beaucoup, beaucoup donné à la communauté, et aujourd'hui, Radio Centre-Ville a besoin de notre aide parce qu'elle est en train de rénover un bâtiment dans le Maryland, et c'est un immense projet qui va lui permettre de faire résonner sa voix pendant encore longtemps. Moi, je suis marraine de cette radio depuis quelques années et je suis heureuse d'annoncer que je donne et je contribue à Radio Centre-Ville pour son projet de grande rénovation. 5 000 $ dont 4 000 provient de mon augmentation de salaire. J'invite tous ceux et celles qui nous écoutent et qui le peuvent à aussi contribuer au projet de Radio Centre-Ville pour qu'elle continue à résonner encore longtemps sur nos ondes, mais aussi dans nos cœurs.
Madame la Présidente, depuis 50 ans, Radio Centre-Ville est dans le paysage québécois en offrant une variété d'émissions à l'ensemble de son auditoire. Radio communautaire offrant des émissions principalement en français, mais aussi dans 7 autres langues, elle peut s'enorgueillir de cette caractéristique particulière. Avec des émissions d'information et de divertissement, elle a contribué à la qualité de vie de plusieurs générations d'auditeurs. Aujourd'hui, grâce à l'ajout d'un contenu véritablement inclusif, rejoignant différentes clientèles, Radio Centre-Ville est un acteur de premier plan de cette vision toute québécoise du vivre ensemble. Je salue le travail réalisé par son directeur général, Onyx Alan, les membres du conseil d'administration, les animatrices, animateurs, les techniciens de tout et toutes les équipes qui ont contribué depuis les 50 dernières années au succès du 5FM. 50 ans du 102.3 FM, une station qui a permis à des générations de Québécoises et de Québécois de faire connaissance avec leur pays d'accueil et à d'autres de découvrir la richesse de la diversité. Longue vie à Radio Centre-Ville.
Radio Centre-Ville appelle, rappelle, interpelle, et ceci pour une société juste et équitable. 102.3 FM.